Bonjour. En ce moment même, alors que débute ce magazine Interception, on fait la fête sur le site d'Angkor au Cambodge, à presque 10 000 km de la France métropolitaine. Et plus précisément sur l'un des 270 temples que compte l'ancienne cité impériale Khmer, le temple du Bapun, dont on célèbre la fin des travaux de restauration. Il aura fallu presque 100 ans pour que cette merveille de l'architecture Khmer s'ouvre de nouveau à l'admiration des visiteurs. Au début du siècle dernier, cet édifice de 3 étages était rongé par le temps et en partie englouti par la jungle cambodgienne. Dans les années 60, les archéologues français entreprennent sa résurrection. Mais pour libérer l'édifice de sa camisole végétale, il n'y a qu'une solution, démonter le temple pierre par pierre, l'entreposer sur des hectares de jungle, nettoyer et tout remonter. Mais en 1975, les Khmers rouges arrivent au pouvoir à Phnom Penh et ils détruisent les plans. Le puzzle géant a perdu son mode d'emploi. 20 ans plus tard, Français et Cambodgiens relèvent le défi. Ils vont identifier puis replacer les blocs de pierre du Bapun. Le casse-tête en 3 dimensions durera plus de 15 ans. Avant que résonne le dernier coup de maillet des tailleurs de pierre, Isabelle Pasquier et Nicolas Mathias ont visité le lieu et rencontré les artisans de cette renaissance. Au cœur d'Angkor, l'incroyable résurrection d'un temple.
Interception, le magazine de la rédaction.
Voilà, le Cambodge, il fait très chaud pour messieurs dames. Hein. C'est pas l'habitude. Hein. Et voilà. Mais ça, il fait très chaud, mais le pays fait très très incroyable. Et avec des belles visites, un beau temple comme ça. Voilà.
Nous sommes arrivés au temple de Bapun. C'est un temple hindouiste, date du 11e siècle. Mais le temple de Bapun est en train de restaurer le projet de restauration financé par le gouvernement français. Voilà. Mais le travaux qu'il a pris longtemps. Bon, le chantier a été inauguré par le roi Norodom Sihanouk en 1995. Et maintenant, le chantier est interdit au public parce qu'il est en train de restaurer. Voilà. Mais derrière de ce temple, il y avait une grande statue de Bouddha couché. Hein? Il a déjà restauré le Bouddha couché derrière. C'est un temple de montagne, c'est un temple en bronze. Par rapport au temple de Bayan, c'est un temple en or. Comme en or. Hein? Et voilà. Et on peut voir la statue de Bouddha couché derrière. On fait le tour du temple. Voilà. C'est bon? Vous avez des questions? On y va, c'est bon. Voilà, continue.
Montez.
Voilà, montez.
Nous voilà devant le temple du Bapun, un temple qui se trouve au cœur même de la cité d'Angkor, juste à côté de l'ancien palais royal. Le temple ressemble aujourd'hui à une grande pyramide, une pyramide d'une 30 mètres de hauteur. Il y a encore plusieurs grues, beaucoup d'ouvriers, d'échafaudages. Il faut dire que ce temple, il y a encore 15 ans, ressemblait tout simplement à une grande montagne de cailloux. Pascal Royer, vous êtes l'architecte en chef de ce chantier incroyable. C'était un défi complètement fou, on peut dire, que de vouloir restaurer ce temple.
C'est vrai que c'était un gros challenge à organiser. Sachant qu'en 1995, lorsque ce chantier a réouvert, on était un peu face à l'inconnu, à la mesure où on était face à un chantier qui avait subi une interruption de 25 ans.
Pendant la guerre.
Lié à la guerre civile au Cambodge, oui, au début des années 70, et qui ne reprendra, qu'on ne pourra réouvrir, reprendre, au point où il était interrompu, en 1995. Donc ça, c'était un gros pari en soi. Durant toute la guerre civile, c'est-à-dire près de 25 ans, le Bapun va rester, en fait, à l'abandon, sans aucune intervention. Le monument est entièrement démonté, aux trois quarts démonté. Tout le produit de ce démontage est déposé provisoirement dans la forêt, sur environ 10 hectares de forêt, ça fait à peu près 300 000 pierres et fragments de pierre. Et la grande difficulté, c'est que tout le processus de démontage de ces maçonneries a été constitué en archives, déposé dans les locaux de l'École française d'Extrême-Orient à Phnom Penh au début des années 70. Et en avril 1975, lors de la prise de Phnom Penh par les Khmers rouges, en fait, toutes ces archives ont été pillées, et dilapidées, brûlées, on ne sait pas, mais elles n'ont jamais été retrouvées. Nous étions face à un puzzle incluant la troisième dimension, alors qu'un puzzle classique, c'est sur deux dimensions. Un puzzle dont on aurait mis en désordre toutes les pièces et dont on aurait brûlé le couvercle, montrant l'image sur laquelle on pouvait réassembler les milliers de pièces appartenant au puzzle.
Donc, concrètement, comment vous vous y êtes pris avec toute votre équipe ici pour remonter ce temps, pour le reconstituer, le reconstruire ?
Alors, la seule solution qui s'offrait à nous, c'était en fait que nous avions, dans les locaux de l'École française d'Extrême-Orient à Paris, des archives photographiques se rapportant aux différents travaux qui ont été réalisés de 1908 à 1972 sur ce monument. En fait, ce sont les seules sources représentant le monument qui étaient à notre disposition. Donc la première problématique à laquelle on devait faire face, c'était que nous avions donc des milliers de pierres étendues, disséminées dans la forêt, et qu'il fallait retrouver leur ordre de pose. Et finalement, la seule solution, c'est une solution qui relève, je dirais, presque du puzzle, c'est d'essayer de créer des groupes de pierres, à l'intérieur de ces groupes de pierres, de créer des sous-groupes, des familles de pierres et des sous-familles de pierres, de façon, finalement, à partir d'un ensemble complexe de 300 000 pièces, le choix se porte sur une dizaine ou une vingtaine de pierres. Et c'est comme ça qu'on a procédé, de la même façon qu'avec un puzzle, on commence par chercher les angles, les bords. On a fait la même chose, sachant que ce n'est pas si facile que ça, puisqu'on ne manipule pas des petites pièces en carton, mais des blocs qui, en moyenne, pèsent entre 400 et 800 kg, avec les plus gros d'entre eux qui peuvent atteindre 1,5 tonne à 2 tonnes. Les premiers travaux de remontage ont pu être réalisés à partir de 1997, c'est-à-dire qu'il a fallu presque 2 ans pour qu'on puisse acquérir la certitude d'avoir retrouvé certains pans de mur qui allaient à tel endroit.
Mais le temple daté la première moitié 11e siècle dédié au dieu Shiva. Au 17e siècle, les moines sont essayés de transformer ce temple en forme temple bouddhique. Au départ, temple hindou dédié au dieu Vishnu. Tout d'abord, la tour entourée par la galerie 5 mètres de hauteur. La galerie 5 mètres de hauteur.
On est obligé d'interrompre certains travaux parce qu'on travaille en hauteur et il y a des risques de... On est sur un point très haut, on est à hauteur des arbres. Il y a beaucoup de masse métallique sur la partie supérieure et donc on fait descendre nos collègues le temps que l'orage passe. Ça ne devrait pas durer longtemps parce qu'en cette saison, il ne pleut pas. C'est des orages secs souvent, mais on craint toujours la foudre en point haut comme ça. Et donc on arrête un peu les activités pendant une heure peut-être.
Ça arrive souvent ce type de situation?
À partir du mois de mai-juin, oui, c'est quasiment 2 fois par semaine. On est obligé de temporiser pendant une heure. Pour les parties basses, quand on travaille sur le deuxième et le premier étage, ça ne pose pas de problème, mais on ne craint rien. Mais par contre, sur les parties supérieures, il faut faire attention.
Je suis Dominique Telon, ça fait 4 ans, un peu plus de 4 ans que je suis ici. Et je travaille comme chef de chantier et conducteur de travaux au Bapoun. Alors la spécificité de ce chantier, c'est en fait, il est unique. D'abord, c'est l'un des plus grands chantiers au monde de reconstruction archéologique. Et se retrouver chef de chantier, disons, second de M. Pascal Royer pour travailler sur un site comme ça, pour moi, c'est absolument exceptionnel. Je m'y attendais absolument pas. Je n'ai jamais pensé de ma vie un jour travailler sur un site pareil. Et je suis arrivé, ma foi, au bon moment, au moment où tout commençait à se remonter. Et c'est un travail qui est absolument fabuleux, extraordinaire. Je ne sais pas quoi vous dire plus. Pour moi, c'est même pas la cerise sur le gâteau ni le cajou de cerise, ça serait plutôt le cerisier complet. Oui. Parce que terminer ma carrière professionnelle sur un site pareil, c'est quand même unique au monde. Il y a une place au monde et c'est moi qui l'ai. J'ai pas le droit de me plaindre.
Qu'est-ce qui a été difficile dans le chantier, dans les différentes étapes?
Bon, la difficulté, on a tous les jours. Ne serait-ce que déjà que la barrière de la langue, parce que je ne parle pas khmer. Mais par contre, j'ai un chef de chantier khmer qui est absolument extraordinaire, parce que ce monsieur, c'était une mémoire vivante du temple. Et les difficultés, pour en venir aux difficultés, tous les jours, il y a des difficultés. L'ajustement des pierres, les mettre à leur bonne place. Parce que là, on ne met pas des pierres n'importe comment. Hein. Chacune pierre d'origine est à sa place d'origine. Il n'y a pas... Parce que, dans le temps passé, ils n'avaient pas les maîtres comme on est à l'heure actuelle. Le maître, c'était l'avant-bras du contre-maître ou de l'ouvrier. S'il y avait un gars petit, ben, il avait un petit maître. Et si c'était un grand gars, il avait un grand maître. Donc, il n'y a pas une pierre qui est pareille. Et comme ils les ajustaient les unes aux autres, en les frottant les unes sur les autres comme ça, on a l'empreinte de la pierre du dessus sur la pierre du dessous. Donc une pierre qui fait 45 cm n'ira pas à un endroit de 35, vous comprenez ce que je veux dire. Donc chaque pierre est à sa place. On rencontre des difficultés tous les jours, mais on arrive à les surmonter tous les jours également. Et c'est un plaisir à chaque fois, parce que chaque fois on voit le temple monter toujours un petit peu plus.
Donc la plus grande difficulté au départ, le plus grand défi, c'était de reconstituer le puzzle à partir de pierres comme les pierres sur lesquelles nous sommes assis là dans la forêt à
oui,
côté du temple.
Exactement. Les prédécesseurs ont démonté entièrement le temple, ont numéroté toutes les pierres qu'ils ont classées en forêt sur des hectares à des hectares. Et les documents de l'époque ont été détruits par les Khmer Rouges à la rivière Phnom Penh. Et M. Pascal Royer, qui est venu au Cambodge pour prendre la suite des travaux, s'est retrouvé devant un stock gigantesque de blocs, 300 000 blocs, numérotés certes, mais à quoi ça correspondait? Alors là, moi je tire mon chapeau. Je sais pas, j'aurais pas eu le courage, personnellement.
Vous avez le sentiment qu'au niveau même spirituel ici, ça élève quelqu'un de travailler des années sur un temple sacré comme celui-ci? Parce qu'on sent bien qu'il y a une valeur sacrée quand même pour les Khmer.
Non seulement pour les Khmer, mais pour moi aussi, j'ai l'impression de travailler pour quelque chose de sacré, c'est un fait, et pour un monument unique qui est le patrimoine de l'humanité. J'ai l'impression de faire quelque chose dans ma vie, de ne pas être là ou ailleurs, hein, mais être un être inutile. Là, je laisse quelque chose, et je suis heureux de laisser quelque chose. Ce n'est pas une question de fierté, c'est que du bonheur. C'est peut-être un peu dur de dire ça pour la construction d'un temple en pierre, mais moi je suis né dans la pierre, est toute ma vie. Dans ma famille, on est depuis, je pense, 5 ou 6 générations dans la pierre. Et puis moi je suis la dernière lignée dans la pierre. Après c'est fini. Je ne mets pas les mains. Hein. Il est parti où le scorpion? Il est sous la pierre là? Bon, ils vont bien le retrouver, de toute façon il faut qu'on le retrouve. Hein. Des scorpions on en trouve très 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 souvent. Notamment vers le bassin, là, les pierres qui sont le du bassin, on est tombé sur plusieurs nids déjà. Mais où il y a des scorpions par dizaines. Hein. Alors, des moyens, des gros, des petits, des tout ce qu'il veut. Plein, plusieurs fois. Regardez, voilà, il est là. Ah oui, il a sa queue, hein. Il a son dard là. Moi j'aime pas ces bestioles. Hein.
Mais ça leur fait pas peur visiblement.
Ils ben non. Avec. Non mais là, il est peut-être petit. Il est peut-être petit pour le faire griller. You can hit this now? Yeah, you want it now? Ah oh, oui, toutouille, trop petit. Mais enfin bon, les noirs sont pas très très dangereux. Enfin, c'est pas recommandé non plus de se faire piquer. Hein. Les plus dangereux, ce sont les jaunes.
Et donc au début, quand vous étiez dans ce champ de pierres à replacer sur le temple, vous deviez soulever des pierres et
il y avait toujours les scorpions. Pas toujours, mais beaucoup.
Et vous n'avez jamais eu d'accident avec ça ?
Jamais. Jamais, jamais.
Nous sommes face à la façade principale du temple. Il faut savoir que toutes les pierres que nous voyons sur ces trois étages, en fait, il y a encore une quinzaine d'années, étaient disséminées sur environ 10 hectares de forêt autour de nous. Alors il reste encore beaucoup de pierres qui ne pourront pas être remontées, mais on peut dire que sur les 300 000 pièces de grès originales que nous avons dénombrées en 1995, aujourd'hui il n'en reste plus entre 15 et 20 000, sachant que tout le reste a été replacé sur les trois étages du monument auquel nous faisons face. On est donc sur la façade principale d'un temple montagne, d'une structure pyramidale à degrés, à trois étages principaux. Et au sommet du temple, à 35 mètres de hauteur par rapport au niveau du terrain naturel, était construit le sanctuaire principal qui abritait la divinité principale du temple. Ici, en l'occurrence, nous sommes dans un milieu shivaïte et il s'agissait probablement d'un linga, c'est-à-dire de la représentation de la puissance créatrice de Shiva. Alors, nous sommes encore 300 à travailler sur ce chantier, dont environ aujourd'hui 200 tailleurs de pierre, puisque nous sommes en phase de finition. La taille de pierre étant actuellement une grande activité, puisque nous sommes contraints, sur les trois étages du temple, de procéder à des remplacements de pièces de grès, à des réparations qui impliquent tout un travail de ravalement pour sculpter les décors sur les différentes structures, qu'il s'agisse des soubassements ou des galeries.
Devant la bibliothèque nord-est, on a mis 4 dalles de béton pour supporter pour le passage.
Enlever,
on les a enlevées.
Remplacées
par des dalles de béton. Bon, c'est merdé. Okay.
C'est un peu un village vertical. Parmi les anciens ouvriers, certains ont travaillé ici sur le Bapoun dans les années 60, avant la guerre civile et avant l'arrivée au pouvoir des Khmers Rouges. Sous la dictature de Pol Pot, des centaines de familles s'étaient réfugiées dans les temples d'Angkor, car elles croyaient y trouver une protection. Et cette période reste une plaie douloureuse pour les Cambodgiens, qui n'aiment pas l'évoquer. Dans la campagne, à quelques kilomètres du site d'Angkor, nous retrouvons Chion Ryun, un ouvrier du chantier.
À l'époque de la guerre, moi je m'enfuis comme les autres populations à Simlip. Il y a certains qui s'enfuient pour aller dehors de Simlip, certains d'autres qui restent encore un petit peu ici. Quant à moi, j'étais évacuée à côté de Kulen, de montagne de Kulen, Phnom Kulen, où j'ai resté là-bas pendant 5 ans.
Mon tour Phnom Kulen, nous sommes dans le monde de Phnom Kulen.
Quand la guerre a commencé, il y a des populations qui s'enfuient, réfugiées dans les temples. Moi, j'étais en Kothom. Là où je m'enfuis là-bas, pour vivre là-bas, parce qu'il y a des bombardements à l'époque. Et après, il y a les Khmers qui viennent et nous, on a quitté les temples. Et à l'époque, c'était vraiment difficile.
Donc là, c'est les Khmers Rouges qui les font évacuer des temples, c'est ça?
Après, oui. Oui. Quand les Khmers Rouges entrent. La situation à l'époque, c'était vraiment difficile. Moi, j'étais à Phnom Kulen. Là-bas, c'est vraiment très dur. La plupart des gens sont morts de malaria là-bas parce qu'il n'y a que des forêts. On vit difficilement, on n'a rien à manger. Et pour certaines d'autres personnes que les Khmers Rouges ne les aiment pas, ils les tuent. Mais la plupart des gens sont tués à cause de malaria et de malnutrition. Quant à moi, je me fais travailler dans la rizière comme les autres.
Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ouvriers avec lesquels vous avez travaillé pendant, avant la guerre sur les différents chantiers que vous ne retrouvez pas après. Il y a eu beaucoup de victimes ici de la guerre et des Khmers.
Quand je reviens travailler dans le temple pour la restauration, moi je vois les autres ouvriers, les anciens ouvriers, je n'ai le voir à peu près 10% qui restent, c'est-à-dire les autres ouvriers sont morts, certains d'autres vivants, mais on ne sait pas où ils sont. Mais la plupart, je suis sûre qu'ils sont morts, surtout les ouvriers qui travaillent avec moi dans les années 60. Là, la plupart, ils sont morts. Je m'appelle Soi Sokchan, j'habite au district de Pour. J'ai 28 ans.
Il fait extrêmement chaud, on est presque tout au-dessus du temple du Bapuan, avec des jeunes tailleurs de pierre qui font donc leur pause déjeuner avec des petits sacs. Ils sont venus avec des petits sacs de riz, de poisson, de mangue et beaucoup d'eau, beaucoup, beaucoup d'eau. Est-ce que vous êtes heureux d'avoir participé à ce chantier?
Je suis très contente de pouvoir travailler ici parce que ça me permet de gagner la vie et aussi pour aider ma famille. Je suis très fière de pouvoir travailler ici parce que c'est aussi c'est un temple sacré et c'est aussi ça permet de garder une mémoire pour les nouvelles générations. Moi, en fait, c'est mon premier travail, c'est un travail nouveau pour moi. Avant, je n'ai jamais travaillé en tailleur de pierre. Avant, j'étais paysan, je travaille dans la rizière. Et c'est vraiment une nouvelle chose pour moi. J'apprends beaucoup de choses et je commence à travailler depuis 2009 au mois de juin. Ce travail est très, très bien, très parfait pour moi. Moi, je peux gagner ma vie grâce à ça, je gagne bien aussi. Et c'est mieux que de travailler à la rizière, parce qu'à la rizière, je ne peux pas gagner de l'argent. J'ai du riz, je peux accueillir du riz, mais je ne touche pas de l'argent. Et ici, je suis sûre d'avoir reçu du salaire à la fin du mois.
Vous pouvez nous donner à peu près le montant du salaire?
Moi, je gagne 108 dollars par mois. Et avec cet argent-là, je peux acheter des nourritures pour ma famille. Je peux aller participer à la fête de mariage de mes amis. Je peux aussi partager certains pour ma mère, surtout, et aussi économiser un peu pour mon futur.
Ce salaire, par rapport à des autres salaires, c'est assez mieux, plus ou moins mieux, parce que ça dépend du travail. Ici, on travaille au restaurant, on gagne à peu près entre 50 à 80 dollars. Donc, pour moi, ça me suffit pour ce prix-là.
Alors je propose d'accéder à la façade sud. Alors n'oubliez pas que nous sommes sur un chantier, il y a encore deux grues en fonctionnement. Veillez bien sûr à ne pas passer sous des charges en mouvement. Alors les structures du premier étage sont sans doute les structures qui sont pour nous les plus difficiles à restaurer. Il faut savoir que le temple montagne, construit au XIe siècle, a été transformé 5 siècles plus tard, vers la fin du XVIe siècle, par une grande entreprise, je dirais, de reconfiguration du monument, qui a consisté en la construction d'une grande statue monumentale représentant le Bouddha parvenu au Nirvana, qu'on appelle le Bouddha couché. La grande particularité, c'est qu'en fait, cette statue a été construite en utilisant le monument comme une carrière, pour permettre la construction de la statue du Bouddha sur la face ouest. Faites attention parce qu'on est toujours ici en hauteur, on est toujours à l'aplomb de grands murs et soyez prudents. Voilà, continue tout droit. Voilà. Voilà, allez-y. Donc voilà, on est sur la partie la plus active du chantier. On est au troisième étage, presque au sommet du temple. Et nous sommes ici en train de parachever tout le travail de sculpture des décors sur le petit soubassement qui supporte la galerie et en certains endroits sur les éléments de galerie. Alors on va avancer pour se mettre dans la cour. Suivez-moi. La vue est impressionnante, on a ici l'impression d'être dans une sorte de cloître un peu fermé, mais dès que l'on s'approche dans la galerie, on voit immédiatement le surplomb qui est créé et la hauteur assez importante de ce bâtiment. Et derrière nous, ce que l'on voit, en fait, ce sont les vestiges du socle de la tour centrale, c'est-à-dire du sanctuaire principal qui abritait la représentation de Shiva.
Et là, en aucun cas, vous ne vous permettez de restaurer ce qui n'existe plus avec des pierres que vous retrouveriez
non.
Même dans la même carrière que celle d'origine.
Non. Le parti architectural retenu, consiste à restituer le monument dans sa phase post-16e siècle, incluant la construction de la statue du Bouddha. Alors, de fait, comme on sait que cette statue a été construite à partir de pierres qui ont été prélevées sur les structures antérieures du XIe siècle, si on venait à compléter les éléments de la tour centrale, on aboutirait finalement à un mensonge historique. C'est-à-dire qu'on révélerait deux états du monument qui n'ont jamais pu coexister historiquement. Si vous voulez, on peut monter jusqu'au sommet du temple. Il faut faire très attention parce que les escaliers sont très très abrupts. Donc on est vraiment dans la phase finale, d'ici 15 jours il n'y aura plus d'activité ici. Quoi. Et on sera contraint de démanteler les échafaudages et de replier le chantier.
Il est environ 10h du matin et nous roulons en tuk-tuk sur un chemin carrément défoncé dans la campagne. On est tout près de la ville de Siem Reap et nous allons rencontrer chez lui Monsieur Thaï. Monsieur Thaï, c'est le chef de chantier Khmer du temple du Bapun. Voilà, donc nous arrivons chez Monsieur Thaï, qui habite une assez grande maison sur pilotis, une maison à l'ombre des palmiers et des manguiers. Il habite là avec ses quatre enfants, ses quatre petits-enfants, qui s'amusent dans la cour avec un bébé chien. Monsieur Thaï est aussi paysan, il cultive sa rizière quand la restauration du temple, bien sûr, lui en laisse le temps, parce que vraiment, il a consacré une grande, grande partie de sa vie à la restauration du Bapuan. Bonjour Monsieur Thaï.
Oui, bonjour.
Ah, quand même, un petit mot de français. On peut dire que vous avez passé presque toute votre carrière professionnelle à travailler sur ce temple.
Bon, j'ai beaucoup de sentiments qui collent vraiment à ce temple, à la construction de ce temple. C'est vraiment une œuvre du Cambodge, mais en même temps aussi de la France, parce qu'on a collaboré à travailler ensemble. Et c'est très très content. Avant, je ne pensais pas qu'on arrive à ce moment-là, parce que toutes les pierres sont éparpillées partout et qu'on ne sait pas comment faire pour remonter un temple. Et on trouve que c'est vraiment difficile, mais on y arrive jusqu'à aujourd'hui. Et moi, je suis très enthousiaste.
Kara, Kara. Kara, kiếm trang bao nhiêu for bike more for near machine for go good tom.
Okay.
Anh Quân, 5 minutes, okay.
5 minutes, okay.
Okay, anh Quân Trang. Moi, ma principale occupation ici, disons, est de fournir le chantier en pierre pour pas que les gars s'arrêtent. Et il faut toujours prévoir à l'avance. Quand les blocs arrivent ici, bon, généralement je vérifie toujours la qualité des pierres quand elles arrivent, parce que des fois il y a des pierres comme ce bloc-là par exemple. Bon, ce bloc-là il ne vaut rien du tout. Ce bloc-là il ne vaut rien du tout, vous voyez. Il est fendu complètement ici, fendu là. Là on ne peut rien en faire, je peux simplement faire quelques dalles pour faire du dallage pour le sol, c'est tout. Bon, lorsqu'il m'arrive des blocs comme ça, ben, ces blocs, on les refuse. Et quand les blocs sont sélectionnés, je trace les blocs, je les mets en place sous la machine avec le personnel, et les gars ici. Bon, de temps en temps, je viens voir, parce que j'ai l'oreille musicienne pour la pierre. Des fois, j'entends siffler un petit peu la machine, je dis tiens, ils ont oublié de mettre de l'abrasif, ou alors il y a trop de flèches, ou il y a trop d'eau. Donc je viens, puis je fais rectifier l'arrosage, comme on dit.
Vous faites venir beaucoup de pierres d'une carrière proche ici ?
Ah ben, les pierres proviennent du Mont Coulen, des carrières d'origine.
Donc à terme, rapidement, les pierres que vous avez réintroduites dans ce temple vont prendre la même couleur que
exactement,
les autres ?
Exactement. Il y a même déjà des pierres qu'on a mises depuis 4 ans, des pierres neuves. Il faut savoir qu'elles sont neuves pour les repérer. Quelqu'un non initié, il ne voit pas la différence. C'est-à-dire qu'au départ, ils sculptaient les pierres le mieux possible. Elles étaient blanches, point final. Et puis, de voir ces pierres blanches, mais ce mur noir tout cabossé, ça jurait, quoi. C'était comme un nez rouge d'un clown. Hein. Donc, un jour, j'ai pris l'initiative, j'ai demandé aux ouvriers qui me passent leurs outils, et j'ai sculpté une pierre comme si c'était une pierre ancienne, avec les brisures, les desquamations, ainsi de suite, les usures, ainsi de suite. J'ai appelé mes ouvriers et je leur ai dit, voilà, maintenant vous faites ce secteur-là, comme ça. Alors je les ai aidés, j'aurais montré, s'il y a une brisure dans une pierre ancienne, on la continue sur la pierre neuve, pour bien que ça se mette ensemble. Et après on a patiné. Alors avec, je ne peux pas vous dire le secret de la patine, mais c'est toute la patine naturelle. Il n'y a aucun produit artificiel ni chimique. On se sert de la poudre de latérite, c'est-à-dire la boue de sillage de latérite. une boue qui est rouge, rouge-orangée, vous voyez. Et après, on passe une deuxième couche d'un noir. Avant, on prenait de la boue qui était dans la forêt, vous voyez, de la boue de putréfaction de feuilles qui est un peu noire et tout ça, mais ça ne tenait pas. Et j'ai demandé à un de mes ouvriers, je dis, mais vous, là, dans les villages, vos femmes, elles ne font pas de la teinture de vêtements. Alors il y en a un qui m'a dit, mais oui, ma femme fait de la teinture avec des produits naturels, avec des feuilles d'arbres et des écorces d'arbres, une teinture noire. Mais je dis, écoute, si tu connais la recette, tu m'en fais un seau. Et le mélange de cette couleur de latérite avec ce noir de décoction de feuilles, si vous voulez, fait exactement la couleur de la pierre ancienne. Là, c'est un coup de peau. Hein. Disons, c'est une œuvre commune entre eux et moi. Quoi. Voilà. Entre eux et moi, ça passe très très bien. Même s'il y a la barrière de la langue, on se comprend très bien. Et je les estime et ils m'estiment. Et j'ai obtenu leur confiance, si vous voulez, en faisant la tête du Bouddha. Ils avaient un bloc comme ça, enfin, dans ce genre-là, si vous voulez, à couper en deux. Et j'ai vu deux gars là, qui étaient là avec la massette et la broche, et bing, et bing, et bing. Je dis, qu'est-ce que vous foutez là? Il dit, papa, il m'appelle papa, on coupe le bloc en deux. Mais je dis, je vais vous montrer comment on coupe un bloc en deux. J'ai tracé le bloc à l'endroit où il fallait le couper. J'ai donné un coup de sillage de 5 cm tout autour. Et là, j'ai mis mes blocs métalliques, mes coins métalliques, et j'ai tapé, tac, 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 tac. Et c'est pas un des secrets, c'est du métier du tailleur de pierre, si vous voulez, on écoute la pierre. Mais je ne vous mens pas, j'avais au moins 80 personnes autour de moi. On a entendu un moustique voler. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait le papa? Il écoute le caillou, il est un petit peu à scout, comme on dit. Et lorsqu'on écoute la pierre comme ça, lorsqu'elle est sous tension avec les coins, on entend claquer, faiblir, des coups, tic, tic. Et puis, donc je retape une deuxième fois, je réécoute. Et puis je dis, attention, ça va tomber, attention les pieds. Bing, 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 et le bloc, pouf, coupé en deux, mais comme un coup de rasoir, net. Et là, on a entendu 80 poitrines. Wow. Ils ont dû me prendre pour Bouddha, vous croyez. C'est un peu enfantin aussi, dans le fond. Le meilleur modèle, c'est de regarder les blocs anciens et d'essayer de faire l'imitation la plus parfaite. Parce que bon, lorsqu'on brise les pierres avec les outils, l'arête est toujours vive. Et cette arête, ben, il faut l'adoucir. Comme les blocs anciens, vous voyez, c'est toujours tout arrondi par l'érosion. Donc une fois que c'est brisé, ils y vont au papier de verre et ils frottent pour arrondir toutes les arêtes. Voilà. Et après, bon, il n'y a plus qu'à faire mettre la couleur. C'est tout du produit de la forêt.
Non, mais les mois de rebouer. Mêlé,
on le mêle.
Ah,
monsieur,
bon,
tu vois,
il y a l'eau qui est là.
À chaque
restauration des temples, on fait des offrandes pour la terre, pour les nectars. C'est-à-dire ce sont des âmes qui errent dans cet endroit-là pour qu'ils viennent chercher, recevoir toutes les offrandes qu'on leur donne. On a du poulet, on a du porc, on a aussi du vin, du vin de riz et aussi des autres choses pour eux. Donc à chaque fois qu'on commence à monter les pierres, pour les monter, avant de les monter, il faut faire des prières. C'est pour que ces âmes qui errent tout ça, qui viennent nous protéger des dangers, qui nous aident aussi à construire le plus vite possible, pour finir le plus vite possible. Et aussi, on fait ça selon notre tradition
khmère. ដល់បុលទាំងនោះគេទៅគេជួយជុំជែងកម្មកករមានគ្រោះថ្នាក់នេះគេមិនមិនមានគ្រោះថ្នាក់បាទគេមកជួយដើម្បីនឹងទួយធ្វើផ្ទះគេយល់បោះទៅគ្នានឹងបោះទៅលុះយើងមិនលុះបាទទៅបីថ្មចង់លូតឡើងមកអត់រួចគេជួយទប់
Il y a des dangers déjà à Bapun, mais il y a des pierres qui tombent, mais c'est pendant la nuit, le matin qu'on retrouve. Donc c'est dire que il y a des âmes qui viennent les freiner les pierres là-bas pour que ça s'effondre pas quand les ouvriers sont là.
Au cœur d'Angkor, l'incroyable résurrection d'un temple. C'était un reportage d'Isabelle Pasquier, prise de son Nicolas Mathias. Jason Taus a mixé ce magazine, réalisé par Anne Lioro avec l'aide de Valérie Bourg. Sachez qu'à la page Interception sur le site de France Inter, vous pourrez découvrir notamment les très belles photos que nous ont rapportées Isabelle Pasquier et Nicolas Mathias. La semaine prochaine, nous parlerons de cette dépression qui frappe en France une jeune mère sur 10, la dépression postpartum, autrement dit la dépression après l'accouchement. Toute l'équipe d'Interception vous souhaite une très bonne journée.